Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Rassette. C'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. La question de la semaine, craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Est-ce que vous feriez un test génétique? Est-ce que vous craindriez que des assureurs ou un employeur puissent vous pénaliser si c'était le cas? Pour comprendre la situation, les spécialistes en table ronde vont venir nous expliquer un peu mieux. Maître Ida Nguyen-Fez du Centre de génomique et politique de l'Université McGill, Shahad Salman, conseillère juridique chez Aligo Innovation, et le professeur Pavel Hamet, professeur de médecine à l'Université de Montréal. Aussi, des questions qui vous touchent, la marche de 500 km vers Ottawa lancée par le FRAPRU, le testament ici et ailleurs avec le notaire Jean Lambert et un politicien nécessaire, aveugle, Tommy Théberge. Dans un instant, enfin, une modification au code du bâtiment pour inclure le logement accessible ou adaptable. On en discute avec la directrice de Société Logique, Isabelle Le Cardinal. Tout ça dans un instant sur Canal M, la radio de Vuzévoix. Le code du bâtiment, hein, ces tonnes de règles, tout ça, les entrepreneurs, les constructeurs, les développeurs immobiliers le maudissent la nuit. Mais j'ai un secret pour vous. C'est encore pire pour les personnes en situation de handicap. Pour l'instant, on tient compte des besoins des personnes en fauteuil manuel, mais pas vraiment pour les gens qui ont un gros fauteuil motorisé, puis les personnes aveugles ou sourdes, ben c'est encore plus compliqué. Ceci dit, espoir pour une fois. La semaine dernière, la ministre responsable, Mme Lise Thériault, annonçait que finalement, on ajoutait davantage de règles pour rendre accessibles des logements. Le projet a été suivi par beaucoup de groupes y ont contribué aussi, et parmi eux, Société Logique, c'est pour ça qu'on reçoit Isabelle Cardinal, architecte et directrice de son service de la consultation. Bonjour Isabelle Cardinal.
Bonjour Benoît.
Alors, vous étiez assez réjouie, en fait. Vous avez bien accueilli cette nouvelle modification.
Ben en fait, c'est parce que ça fait plusieurs années que c'est attendu.
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'on se réjouit que enfin il y ait une intrusion dans le logement privé.
Voilà. Parce qu'avant, c'était un peu à la discrétion des constructeurs, si je comprends bien.
Ben en fait, encore aujourd'hui, toute nouvelle construction résidentielle, il n'y a aucune exigence d'accessibilité à l'intérieur des logements. Donc, on a des exigences pour entrer dans un immeuble d'habitation, circuler dans les aires communes. Si on a un ascenseur, on peut monter aux étages, mais le parcours sans obstacle s'arrête à la porte du logement pour tout édifice.
Donc, une fois que la personne entre dans un édifice accessible, ça ne veut pas dire que son logement va être construit pour qu'elle puisse se déplacer à l'intérieur?
Bien, actuellement.
Actuellement, OK.
Donc, c'est ça la limite actuelle. Okay. Donc, la question de départ, c'était est-ce que les promoteurs, certains le font, je ne sais pas comment tu as formulé ça, mais je pense que de façon générale, un promoteur immobilier privé, s'il n'est pas tenu de le faire par le code de construction, c'est très rare qu'il le fait volontairement.
Il faut lui forcer la main un petit peu.
C'est ça.
Rappeler les règles puis les droits, tout ça. Société Logique a formulé souvent dans son histoire des revendications à l'égard du code du bâtiment en matière de logement. Quelles seraient les grandes revendications importantes que vous aviez ou que vous avez, Isabelle Cardinal?
Bien, entrer dans le logement.
Oui, dépasser, très clairement.
Dépasser la porte, mais en fait, concrètement, c'est pas si sorcier que ça. Hein?
Oui.
Encore il y a pas si longtemps, on avait des portes à l'intérieur d'un logement très étroites.
Oui.
Tu sais, c'est pas si compliqué. Donc, un logement, il n'y a pas tant de pièces que ça non plus. Donc, il faut pouvoir entrer dans les pièces, circuler minimalement, puis accéder aux équipements. C'est pas si sorcier que ça, mais à partir du moment où il y a une prémisse de départ dans le code de construction qui dit que le parcours sans obstacle est exclu d'une unité d'habitation, C'est le principe même. Là, ouais.
Parce que c'était le cas avant que ce projet
Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Là, on parle bien d'un projet de loi.
Hein? Bien sûr.
Donc, il y a encore pas mal d'étapes avant qu'on voit des logements accessibles réalisés.
Donc, pour être précis, il faut dire que ça fait quelques jours seulement que ce projet de loi modifiant le code de construction, il faut dire, dans la section qui concerne les bâtiments, a été déposé. Il y a 45 jours de consultation qui sont déjà commencés.
Oui.
Qu'est-ce qu'il propose dans les grandes lignes?
Bon, en fait, ce qui est proposé, c'est deux niveaux d'accessibilité.
Mm-hmm.
Donc, minimalement, là, en fait, la régie détermine, là, ce sera applicable à tous les édifices de plus de 2 étages et de 8 logements, déjà en partant.
Mm-hmm.
Ensuite, on parle de nouvelles constructions.
Oui.
Ou d'agrandissement vraiment important. Donc, les bâtiments existants sont exclus de l'application de ce projet de règlement-là.
Mm-hmm.
Ensuite, on propose 2 niveaux d'accessibilité. Donc, un niveau minimal où 100% des logements devront minimalement répondre à cette exigence-là.
Mm.
Je vais utiliser un autre mot que le minimalement accessible. Je le trouve un peu réducteur.
Oui.
Moi, j'aime mieux parler de visitabilité.
Ah, est-ce que ça serait quelque chose qui correspondrait aux critères de la visitabilité?
C'est exactement ça.
Ah oui, mais pourquoi on n'utilise pas visitabilité alors?
Je pense que quand on n'est pas dans ce milieu-là...
On ne comprend pas.
Je pense que l'importance des mots,
puisque
ça revêt comme importance aussi pour les personnes qui ont une limitation fonctionnelle, je pense qu'il n'y a peut-être pas cette nuance-là qui est faite. C'est sûr qu'on peut dire que c'est minimalement accessible, ça ne fait pas un logement accessible, mais en même temps, quand on pense qu'on va pouvoir visiter nos proches, nos amis, je pense que
c'est ça le principe.
Ça dépend de comment on le regarde. Là.
Bien.
Donc ça, c'est le premier niveau, minimalement accessible. Et les promoteurs auront le choix aussi de faire du logement adaptable.
Mm-hmm.
C'est un choix qu'on donne, le logement adaptable.
Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que un appartement adaptable, pour vous qui connaissez bien ça, c'est clair. Dans le code, qu'est-ce que ça veut dire? Ou plutôt, dans la modification de règlement, qu'est-ce que ça va vouloir dire?
Ça va vouloir dire, dans le deuxième niveau, qu'on va devoir prévoir l'accès à au moins une salle de bain.
Mm-hmm.
Avoir suffisamment d'espace dans cette salle de bain-là pour accéder à la toilette, au lavabo et à la baignoire. Ça ne veut pas dire que le logement va être adapté. Donc, on a de l'espace suffisant pour pouvoir éventuellement faire une adaptation, mais à moindre coût.
Okay.
Donc, on n'aura pas besoin d'agrandir ou de déplacer des équipements, mais il n'y aura pas de barre d'appui, puis le lavabo ne sera pas dégagé. Mais
puis la conception des murs aussi va pouvoir accueillir de l'ajout d'équipements,
exactement,
que ce soit barre ou autre
chose. Les fonds clouage sont prévus, l'emplacement des équipements est prévu, mais ça ne fera pas une salle de bain adaptée. On va pouvoir entrer, circuler, s'approcher des équipements, puis dépendamment de nos capacités, même pouvoir les utiliser.
Okay.
On va pouvoir entrer et se bouger dans la cuisine, minimalement. Il y a des exigences pour des dimensions aussi pour une chambre à coucher, qui devra avoir des dimensions minimales. Donc, au moins rentrer puis circuler, positionner un lit, pouvoir accéder à la...
Quand on parle d'espace minimal, on parle pour un fauteuil manuel ou est-ce que ça pourrait inclure...
Le code de construction demeure avec ses prémices de base
où
la conception sans obstacle vise les utilisateurs de fauteuils roulants manuels.
Mm-hmm.
Ça, c'est clair.
Puis comment il pourrait avoir une troisième classe, je dirais, d'accessibilité qui prévoirait davantage comme un peu votre concept de design universel?
Bien, je pense que pour l'instant, c'est vraiment une première étape.
Okay.
C'est pour ça que nous, on est contents, parce qu'on sait que le code de construction est révisé tous les 5 ans, bon, des fois un peu plus, mais pour nous, on voit vraiment que c'est une première étape.
Oui, c'est la première fois qu'on dit
oui depuis
longtemps.
C'est une première incursion.
Oui. Oui.
Puis, on va voir comment le milieu de la construction se comporte. Le milieu de la construction...
Vous n'avez pas tant de pouvoir que ça là-dessus.
Bien, c'est particulier, mais je pense aussi, la population vieillit, les gens vont avoir des demandes. Moi, je suis curieuse de voir comment tout ça va
évoluer.
Va se concrétiser, dans le fond, parce que là, on a 2 niveaux d'accessibilité. C'est sûr qu'au départ, quand on a vu ça, on avait une crainte. Il peut y avoir 100% des logements qui soient visitables, puis finalement, il n'y a pas tant de logements adaptables qui seront construits.
Mm-hmm.
Mais en même temps, on a confiance que... la population puis les besoins, ça va parler de soi, puis que les promoteurs vont changer tranquillement les façons de faire.
Oui, parce
Puis
que vous dites ça souvent. D'ailleurs, c'est votre directrice générale qui dit souvent les besoins des personnes en situation de handicap révèlent les besoins de l'ensemble de la population. Ça tombe bien
exactement.
quand c'est une société vieillissante.
Ouais.
Brièvement, en terminant, les prochaines étapes, c'est quoi?
Donc là, c'est un projet de règlement qui a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 21 février dernier. Le public a 45 jours pour faire des commentaires. Nous, on incite vraiment les gens du milieu à faire des commentaires positifs parce qu'au terme du 45 jours, c'est sûr que ce n'est pas un règlement qui est parfait, mais si les commentaires sont négatifs, on va retomber à la case départ, puis on va avoir rien.
Vous pensez que le gouvernement pourrait reculer si on était trop insatisfait?
Tout est possible.
Ben, ils sont en campagne quand
La
même.
dernière, ouais, mais la dernière fois qu'on s'est rendu si proche du but,
Ouais.
on n'a pas atteint le but.
Non, c'est vrai.
Donc, le gouvernement a reculé.
Mm-hmm.
Donc, je
Donc,
pense.
vous, c'est pour ça que votre posture est dans la collaboration, parce que vous voulez qu'au moins on fasse ajouter ça dans le code
Exactement.
de
Parce que tant
construction.
qu'on n'a pas une petite brèche qui est ouverte, on ne pourra jamais améliorer ce qui est dans le règlement.
Isabelle Cardinal, architecte et directrice du service de consultation de Société Logique. Merci beaucoup.
Bienvenue. Bonne journée. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done.
Question de la semaine. Craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Feriez-vous un test génétique?
Parfois, il faut marcher ou rouler des milles pour trouver un logement. Ben non, en fait, non, faites-vous-en pas, on n'est pas à l'ère des grandes colonisations ou même de la ruée vers l'ouest. On est dans le domaine de la défense de droit et c'est Franck Bouchard, chroniqueur habitation, qui vient nous éclairer sur cette grande marche. Bonjour Franck Bouchard.
Bonjour Benoît.
Donc, de quoi s'agit-il exactement?
Ben écoutez, c'est une grande marche qu'a annoncé la semaine dernière le FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, une grande marche qui va se dérouler au mois de septembre prochain. Durant tout le mois de septembre, du 2 au 29 septembre, les militants, les militantes du FRAPRU partout au Québec se réuniront à Ottawa d'abord. Le départ de cette marche-là de 500 kilomètres
jusqu'à
Ottawa.
Ottawa
et Québec. Entre Ottawa et Québec.
Okay.
Donc, l'idée, c'est de marcher, effectivement, pour, évidemment, mettre de l'avant les revendications du FRAPRU par rapport à l'investissement dans le domaine du logement social, évidemment. Historiquement, c'est la mission centrale du FRAPRU.
Voilà. Et donc, les revendications, de manière détaillée, j'imagine que ça concerne le logement social, mais qu'est-ce qu'on demande exactement,
Franck Bouchard? Évidemment, on veut profiter d'abord, c'est pas un hasard si on décide de faire ça au mois de septembre, ce sera en plein le mois, on sera en pleine élection à ce moment-là, au niveau du Québec. Alors, évidemment, durant tout ce mois-là, le Frappru va profiter de cette période électorale-là pour mettre de l'avant sur la place publique ses revendications. Évidemment, on veut rendre visibles les problèmes des personnes mal logées, d'abord, parce que c'est vraiment ça le cœur de la mission du Frappru. On veut aussi mettre de l'avant, évidemment, sa revendication centrale de construire d'ici 5 ans 50 000 nouveaux logements au Québec. Donc, c'est vraiment une revendication majeure.
Puis en ce moment, on tourne à peu près à 3 500?
Si on regarde actuellement, dans les 5 dernières années, à peine, même pas 10 000 logements ont été construits au Québec.
Oh oui, c'est ça. Finalement, on en a promis plus, mais il y en a même pas 10 000 depuis.
Même pas 10 000 qui ont été faits dans les 5 dernières années. Récemment, le gouvernement Couillard a dévoilé son plan d'action sur la pauvreté, promettait 3 000 nouveaux logements d'ici 2023. Donc, on est loin du compte par rapport, évidemment, aux revendications du Frappru. D'où, évidemment, l'idée de frapper un grand coup, si on peut dire, de mettre de l'avant donc cette marche-là. C'est son projet le plus ambitieux, 500 km de marche, 28 jours.
C'est impressionnant.
Et ça va arriver le 29 septembre, va coïncider avec la Journée mondiale de l'habitat. Évidemment, encore là, il n'y a pas de hasard.
Non.
Pour le Frappru, on veut vraiment mettre de l'avant ces revendications-là de l'avant durant la campagne électorale.
Mais dans le détail, je vais quand même le rappeler, il y aura des stations dans plusieurs villes.
Et on parle de... le thème, c'est de ville en village sur le droit au logement. Donc, à chaque journée, les gens qui vont participer à la marche vont se déplacer d'une ville à une autre, vont évidemment essayer de rencontrer les personnes locales, au niveau local, pour mettre de l'avant, mettre de l'avant leurs revendications.
Chercher des appuis.
Chercher des appuis, effectivement. Oui. Donc, évidemment, c'est un peu comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire cette marche-là. Un itinéraire qui est dessiné entre Ottawa et Montréal, sur les deux rives du Saint-Laurent aussi. On va essayer de rejoindre toute la majorité de personnes, en tout cas, une plus grande personne, quand par population de personnes, pour les embarquer dans cette marche-là.
On en parlera pour les détails un peu plus tard, parce que c'est quand même en septembre, mais il y a des plus courts trajets qui sont prévus pour les personnes en situation de handicap, les personnes aveugles. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous l'apprends.
Ah, on vous l'apprenez, effectivement, oui.
Mais il y a des groupes, notamment Ex-Eco, qui est membre du Frappru, mais aussi des groupes un peu partout au Québec, qui vont tenter de s'immiscer dans la marche, tout en ayant, disons, une distance acceptable, roulable, si je peux dire. Voilà. Mais il y a des préoccupations qu'on peut avoir comme personne en situation de handicap avec le logement. Pas juste le code du bâtiment dont on vient parler,
effectivement. Il y a des préoccupations. Évidemment, le logement social pour le Frappru, c'est de permettre aux gens qui ont peut-être moins de moyens, qui sont peut-être plus... qui ont des revenus plus modestes, de se loger. Actuellement, les données, selon le recensement, on parlait de 195 000 ménages locataires au Québec qui doivent consacrer plus de la moitié de leurs revenus pour se loger. Là-dedans, évidemment, si on parle des personnes en situation de handicap, elles sont souvent, selon les statistiques, selon les recensements aussi, également ont des revenus moyens plus faibles que les personnes sans incapacité. Donc, c'est évident que pour les personnes en situation de handicap, c'est un enjeu majeur. À la fois l'accessibilité, on parlait tout à l'heure effectivement de votre invité précédente, la question de l'accessibilité, mais la question d'avoir un logement qui est plus abordable pour elle pour être en mesure de pouvoir le payer.
Ben oui.
Donc, c'est un enjeu important. C'est un enjeu aussi important pour les personnes parce que construire des logements accessibles, adaptés, c'est pas fréquent. Donc, c'est aussi un enjeu de mettre de l'avant que parmi ces 50 000 nouveaux logements que souhaiterait le Frappru, qu'on en bâtisse le plus possible, qu'il soit accessible, qu'il soit adaptable. Donc, ça aussi, c'est un enjeu important à mettre de l'avant, non seulement le nombre de logements, mais pour les personnes en situation de handicap, que ce soit des logements qu'elles puissent avoir, être en mesure de pouvoir occuper. Donc, c'est aussi...
C'est sûr. Donc, les deux handicaps, on le dit, le portefeuille et l'accessibilité physique des logements. Mais donc, c'est heureux, on va l'entendre. Rappelez-nous le thème ou le titre de ce grand mouvement?
Le thème choisi par le Frappru, c'est de ville en village pour le droit au logement. Donc, je répète les dates. À partir du 2 septembre à Ottawa, on termine le tout à Québec le 29 septembre, la veille des élections générales. Et en souhaitant, évidemment, du côté du Frappru, que ce soit un enjeu qui prenne la place dans le contexte de l'élection générale et que les gouvernements, aussi bien provincial, mais aussi fédéral, entendent ce message-là pour investir davantage dans la construction de logements sociaux.
Merci beaucoup, Franck Bouchard. Puis pour que les gens continuent de suivre non seulement ce que vous faites vous, mais ce que le Frappru propose, allez visiter frappru.qc.ca. Merci, Franck Bouchard.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Qui aurait cru un jour que je parlerais avec le notaire Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires du Québec, de Johnny Hallyday? Hein? Personne. Jean Lambert, bonjour.
Oui, bonjour Benoît.
Alors, c'est un cas de figure, là, mais de quoi vous allez nous parler aujourd'hui en partant de John Hallyday?
Bien, d'habitude, on utilise l'actualité pour, évidemment, alerter, informer les gens. Alors, le cas de Johnny Hallyday est intéressant parce que, d'abord, il est très médiatisé et ça touche les questions de testament.
Ah, voilà. Donc, on parle testament aujourd'hui.
Donc, on a besoin d'être en France pour avoir des héritiers insatisfaits ou plutôt des héritiers qui ne le sont pas, alors qu'ils croyaient l'être. Alors, on vit ça aussi au Québec. Alors, dans le cas de Johnny Hallyday, j'ai essayé d'être concis. Johnny Hallyday, depuis quelques années, était domicilié aux États-Unis. Donc, il avait sa carte verte. Là. Alors, ceux qui connaissent les États-Unis, c'est la carte qui permet de travailler. Mm-hmm. Ses derniers albums, il les a enregistrés aux États-Unis. Le tout dernier là, qui va sortir dans un studio à New York. Alors, résidence et tout, compte de banque, etc. Donc, les règles de droit international prennent pour la question de domicile les preuves de fait. Donc, est le lieu du principal établissement d'une personne? C'était dans le cas de John Hallyday, non plus la France, mais les États-Unis. Et en vertu de la loi américaine de la Californie, c'est un peu comme nous ici, c'est la liberté de tester. Donc, on peut laisser tous ses biens à qui on veut. Alors qu'en France... On y reviendra. C'est pour ça que j'amenais la question, là, parce que c'est on aurait le même cas d'un Français installé au Québec qui aurait des biens en France avec des enfants en France. Ça serait exactement le même cas. Okay. Alors, en France, par ailleurs, on ne peut pas priver ses enfants d'une partie, ce qu'on appelle la réserve héréditaire, de ses biens. Alors, évidemment, Johnny Hallyday a encore quelques propriétés immobilières en France. Ça, en vertu du droit international, c'est la loi française.
C'est en sol français.
Donc, les enfants vont avoir un certain pourcentage de valeur des propriétés en France, mais ils ne sont pas très nombreux. Je pense qu'il y en a une, peut-être deux, là, tout au plus. Ce qui intéresse les enfants, c'est les droits d'auteur. Ouais. Ah, on sait que 40 ans après la mort d'Elvis Presley, la succession reçoit encore beaucoup de droits d'auteur. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup d'argent là et ils veulent participer, dans le fond, au partage. Alors que tout a été légué à sa dernière conjointe. Je pense que ça faisait une dizaine d'années qu'il vivait avec elle. Elle l'a supporté dans les périodes difficiles de sa maladie et tout ça. Particulièrement, semble-t-il, qu'elle s'est impliquée beaucoup dans l'enregistrement du dernier album qui va sortir.
Donc, elle aurait un apport créatif presque sur la propriété des albums.
Donc, Johnny Hallyday a décidé de lui léguer tous ses biens. Alors voilà, c'est le dilemme. Évidemment, c'est très médiatisé en France. Aux États-Unis, on en parle très peu, mais c'est surtout en France, évidemment, à cause de la réserve héréditaire.
Mais donc, j'avais envie de continuer dans l'histoire de Johnny Hallyday, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a effectivement eu d'autres épouses dans sa vie, c'est ça? Et donc, il y a des enfants et nécessairement, il y a dispute. Bon, on comprend le cas de figure.
Alors, vous avez fait le sursaut, Benoît, par le fait que j'ai dit c'est aussi comme ça au Québec, la liberté de tester.
Exactement.
Alors, je vous laisse parce que je...
Non, ça va. Mais donc, c'est difficile. On ne peut pas déshériter ses enfants partout. En France, on ne peut pas. Au Québec, on pourrait.
Oui. En Europe, sauf l'Angleterre, c'est assez admis qu'il y ait une certaine partie d'héritage qui va aux descendants, aux conjoints. D'ailleurs, vous ne pouvez pas déshériter votre conjointe mariée. J'insiste, mariée. En Europe, c'est encore ça.
OK.
Également ici. Donc, et les enfants. Alors, ça laisse très peu, dans le fond, pour faire un testament. Alors qu'ici, vous pouvez léguer tous vos biens à qui vous voulez.
Ah oui?
Oui.
Et c'est comme ça dans le reste du Canada aussi?
Moi, j'avais un client la semaine dernière qui m'a bien demandé, d'origine française, qui m'a bien spécifié qu'il ne voulait absolument pas qu'il y ait rien qui aille à ses enfants en France. Parce que pour des raisons personnelles, etc. D'ailleurs, nous, on n'a pas jugé des...
Non, c'est ça, comme notaire, on n'entre pas dans le moral
mais
d'affaires.
C'est juste s'exécute. Pour vous dire que c'est très actuel. Alors ici, c'est aussi le cas. Et les gens font toujours le saut quand on leur dit. Donc, l'importance de faire un testament, évidemment.
C'est très important,
Et on peut dire, qu'est-ce qui arrive s'il n'y en a pas?
Bien, en fait, vous m'amenez à la bonne question. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les enfants, par exemple, s'il n'y a pas de testament et puis il n'y a pas eu un choix?
Notre code civil qui est toujours d'inspiration française, malgré qu'on l'a passablement améliorée avec la réforme de 1980, donc entrée en vigueur en 1994. On ne peut pas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de testament, le Code civil accorde une partie importante de la succession à l'épouse ou à l'époux marié.
D'abord.
Encore ça. Et aux enfants. Et là, selon qu'il y a un conjoint survivant ou pas, les enfants ont une partie, les deux tiers, le tiers au conjoint, ou la totalité s'il n'y a pas de conjoint, ou ça peut même aller aux frères et sœurs, neveux et nièces, ça peut aller assez loin, dépendant s'il existe des descendants ou non.
Ah oui, donc il y a comme une logique en cascade, mais les notaires vous recommandez quand même de faire un testament, même si le Code civil nous permet une certaine justice familiale.
Bien, je dois vous dire que la liberté de tester est très admise ici au Québec. On a déjà, dans les années 80, parce que justement, à l'occasion des travaux du Code civil, on s'est questionné là-dessus. Même à l'Assemblée nationale, il y a certains députés qui mettaient devant la réserve héréditaire, comme en France et en Italie d'ailleurs, parce que c'était un originaire d'Italie, ce député. Et non, on a fait un sondage et tout âge confondu, toute origine ethnique, parce qu'on a quand même beaucoup de gens ici, peu importe le niveau d'âge, à 80-quelques % les gens tenaient à liberté de tester, c'est-à-dire donc de choisir ses héritiers.
Étrangement, parfois, on a des lois qui ressemblent à nos volontés et il semble que c'est dans un testament qu'on peut mieux les adresser.
Merci
Jean Lambert. Rappelons que vous êtes l'ancien président de la Chambre des notaires et aussi toujours notaire. Merci.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Quand je pense à hier, quand je pense à demain, quand je ferme mes yeux jusqu'au petit matin, quand je couche mon corps tête pointe dans le nord et que je sens mon dos rappelant le troupeau, quand les funérailles de balais là où les gens baillent en anglais font que même la vieillesse emprunt de paresse finit par doubler le masque d'Orphée, quand l'hypocrisie est de mise entre la peau et la chemise, que la rivière coule et que tout déboule malgré le sang et les dents qui cassent. Non, je ne parlerai pas. Oh non, je ne parlerai pas. Car il y a une rivière qui a poussé entre nous. Même si la terre tout entière ferme les yeux et s'en fout, et si un jour tu y plonges, moi j'y plongerai avec toi pour noyer dans la pénombre la grandeur de nos ébats. Et si la terre tout entière se met à rire de nous, nous leur lancerons des pierres pour graffiner nos genoux. Mais non jamais, mais oui je sais que je ne parlerai pas, bouche gelée jusqu'à ce que nos deux corps soient enterrés. Alors non, je ne parlerai pas. Toutes les grand-mères de la terre, celles qui partiront dans le vent, celles qui partiront pour la guerre, armée d'enfants. Moi, j'ai rongé les sabots de l'âme pour oublier que l'on oublie toutes ces obscénités qu'on a préarrangées, que même un pape outré ne pourrait condamner. Alors non, je ne parlerai pas. Oh non, je ne parlerai pas.
Question de la semaine. Craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Feriez-vous un test génétique?
Répondez-y, s'il vous plaît, sur canalem.vusezvoix.com ou encore sur les réseaux sociaux. C'est important, on veut avoir votre avis. Déjà, quelques commentaires ont commencé à s'ajouter. Ça vous concerne, hein? C'est la chose probablement la plus universelle et la plus intime, nos gènes, disons ça comme ça. On vous présente un peu le côté sombre de ce qui pourrait représenter quelque chose de majeur, en fait, probablement que ça va dessiner notre histoire et ça le fait, et ça va le faire encore pour des siècles, peut-être. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il est possible, du moment qu'on connaît notre cartographie intérieure, nos maux, nos risques, les potentiels, les maladies, est-ce que c'est possible d'être discriminé? Alors, avec nous, il y a des spécialistes de haut niveau qui réfléchissent, qui nous proposent des solutions, des meilleures questions aussi aujourd'hui. D'abord, avec nous, Maître Ida Gwenfez. Bonjour, madame. Alors, rappelons que vous êtes associée académique au Centre de génomique et politique de l'Université McGill, mais aussi avocate.
Oui.
Bon, Sahad Salman, qui est conseillère juridique et aussi gestionnaire de la propriété intellectuelle au sein d'Aligo. Bonjour. Ah, on l'appelle plus tard. Et donc, elle sera avec nous un peu plus tard. Et au téléphone, professeur Pavet Hamet, qui est professeur de médecine à l'Université de Montréal et qui s'intéresse particulièrement comme membre de la chaire de recherche du Canada en génomique prédictive, qui s'intéresse notamment aux questions de discrimination génétique. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Bonjour. Oui, ça va bien, vous aussi?
Oui, ça va bien.
Écoutez, vous venez tout juste de revenir de Bruxelles. C'est très gentil d'accepter.
Je sors de l'avion.
Donc, on vous prend sur le fly dans le mauvais québécois.
Ouais.
Bon, très bien.
Où j'ai présenté cette problématique, oui.
En plus? Ah oui, et vous venez présenter ça à quelle audience exactement?
C'était l'audience scientifique, médicale, c'était à Venise. Mm-hmm. C'était des collègues qui se préoccupent, est-ce qu'on va être capable de prédire les gens qui sont à risque, est-ce qu'on peut, en les traitant plus tôt, d'augmenter l'efficacité de la médecine?
Parce que c'est d'abord la première question, on s'inquiète de la discrimination, mais c'est d'abord une voie extraordinaire pour améliorer non seulement le diagnostic, mais même éventuellement les thérapies.
Oui, oui, il faut beaucoup d'éducation là-dessus, autant des assurances que du public, que des politiciens, parce que oui, le danger existe, il faut protéger les gens dans leur intégrité, dans leur intimité, tout ça c'est absolument nécessaire et la loi canadienne c'est un bon premier pas dans ce sens-là.
Oui, parce que rappelons qu'il y a une loi qui vient d'être adoptée, on va en parler un peu après.
Oui, c'est ça, on a au moins un cadre juridique qui n'est pas encore parfait, mais qui ne s'en pas. Mais il faut un débat sociétal, parce que est-ce que vraiment je vais priver les médecins et les patients de savoir que qui peut avoir une complication rénale de diabète par crainte d'une discrimination et de les privant de traitement?
Avant tout, docteur, est-ce que... professeur, pardon, je suis désolé, professeur.
Bon, ça va.
C'est un peu des deux. Donc, professeur, dites-nous, faites-nous peut-être un étayage du genre d'informations qu'on peut obtenir, du genre de maladies ou de troubles qu'on peut bien connaître et peut-être même enrayer.
Oui, ben écoutez, la crainte vient surtout des maladies monogéniques, c'est un gène qui est complètement déterminant d'une complication majeure et que ça raccourcit la vie. Mais ça, c'est très rare dans la population, si vous voulez. Il faut s'en occuper de façon spécifique. Mm-hmm. Mais nous, de quoi on parle dans la médecine personnalisée, on parle de beaucoup plus, on parle des affections comme hypertension, hypercholestérolémie, diabète. C'est la moitié de la population.
Ah oui, c'est beaucoup de gens. Puis
c'est beaucoup de gens. Il y en a qui sont traités pour rien. Est-ce que ça nous intéresse? Ah. Est-ce que ça les intéresse? Et ça devrait intéresser fortement les compagnies d'assurance. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent la médication et ils ne peuvent pas répondre à cette médication-là.
Bien sûr.
Et nous commençons d'être capables de leur dire.
Mais même les gouvernements peuvent apprécier qu'on ne fasse pas des tests ou administrer des traitements qui ne sont pas en ligne avec le bon diagnostic.
Autant que le gouvernement canadien, que le gouvernement québécois ont investi beaucoup dans cette orientation, si vous voulez, quand et comment ça va diminuer les coûts de médecine. Mais on est en veille d'appliquer ça dans la médecine. Au mois de juin, on a un congrès à Montréal. Au mois de septembre, on a un congrès à Montréal dans lequel on s'intéresse justement à comment insérer ça dans la pratique médicale, comment expliquer ça aux praticiens généraux. Ces problèmes-là, comment l'insérer, comment bénéficier la médecine, pour moi, c'est un problème plus important que le danger de discrimination qu'il faut régler tout simplement, mais qui n'est pas un problème qui va continuer.
Est-ce que donc, et j'ose vous poser la question, comme chercheur, vous seriez plus tolérant sur une partie de discrimination étant donné les possibilités importantes que ça amène?
Non, je n'accepterai pas la discrimination. J'étais actif au niveau fédéral quand la loi a été préparée, j'ai fait mes commentaires. Je trouve ça extrêmement important de s'assurer que nos gens ne sont pas discriminés parce qu'ils ont participé à une étude génétique ou parce qu'ils ont été testés, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs. Il y a des législations qui ont résolu le problème, tout simplement que les compagnies d'assurance ne devront pas avoir le droit d'avoir cette information additionnelle jusqu'au que le patient est malade.
Bien sûr. Et je veux seulement savoir, je m'adresse aux chercheurs là, qui à la fine pointe de ce qui s'évalue ce test en ce moment. Est-ce que toutes ces analyses jouissent d'une très bonne fiabilité? Est-ce qu'on peut très souvent être certain?
La fiabilité est plutôt extraordinaire.
Ah oui?
C'est la compréhension ou l'implication ou l'utilité clinique qui reste encore à spécifier, à établir de façon juste.
OK. Donc, il faut éduquer en ce sens-là. Et donc, si on voit même des risques de maladies graves, voire potentiellement mortelles, ça ne veut pas dire que la personne va les développer. C'est ce qu'il faut expliquer aux intervenants de la chaîne.
C'est ce qu'il faut expliquer, mais c'est surtout là où il faut pousser de ces tests-là. Je dis ça tout en connaissance de mots. Il faut pousser ces tests-là. C'est là où ça peut donner un bénéfice à l'individu. Ça peut lui apporter une prévention, ça peut lui apporter un traitement précoce. Et aussi, ça évite vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà une colonoscopie, la plupart des gens se souviennent de cet examen.
Oui, effectivement, c'est le genre d'examen que les gens ne veulent pas passer.
On s'en souvient.
Oui, voilà.
On sait la date. Et dans ce cas-là, pour une partie de ces gens-là, l'examen est fait pour rien parce que la personne n'a pas l'affection que son frère a eu ou son grand-père a eu.
Et c'est souvent un cancer inscrit dans les gènes, le cancer colorectal, c'est ça?
Le cancer colorectal est inscrit dans les gènes, le cancer du sein est inscrit dans les gènes, cancer d'ovaire, et c'est pour une partie, mais c'est même cette autre partie qui n'est pas encore dans le moment connu comme génétiquement déterminée que nous progressons à cette compréhension.
Si vous permettez, je me retourne deux instants vers Maître Ida Genfez. Maître, est-ce que les propos amenés par le professeur Hamet résonnent chez vous? Est-ce que c'est vraiment ça la question, la tension entre le risque de discriminer, mais aussi le risque d'enlever des chances de sauver des gens? Est-ce que c'est ça, au fond, toute la complexité de la question?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que le docteur Hamet est en train de dire, parce que on a des individus maintenant, si le médecin vous recommande un test génétique, qui peuvent décliner de prendre ce test-là, qui pourrait justement changer la façon dont ils vont être traités ou le diagnostic. Donc c'est important que les individus puissent faire ces choix médicaux qui sont dans leur bénéfice sans avoir se soucier que par le futur, ils pourraient discriminer ou ne plus avoir accès soit à l'assurance, mais aussi dans d'autres domaines.
Parce qu'en fait, c'est ça l'application. C'est là où il y a du risque de discrimination, c'est ça dont on parle. D'abord, l'assurance, parce que les polices pourraient ne pas vous être accordées si on jugeait qu'il y avait un risque trop élevé que vous mouriez d'une maladie, par exemple. Mais les employeurs, peut-être aussi, le gouvernement fédéral a tendance à, pour certains types de secteurs, d'emplois, a tendance à regarder le dossier médical ou peut demander à le faire. Même chose au Québec. C'est, dans le fond, c'est eux qui pourraient discriminer à partir de connaissances sur le génome.
Effectivement, ouais. Le potentiel de discrimination est là. Et je pense que c'est aussi quelque chose que le professeur a souligné un petit peu, c'est qu'on a aussi un manque de données. Donc, on a des individus qui a des anecdotes qui ont été rapportées, mais en termes de recherche au Québec pour savoir quelle est l'étendue de la discrimination et dans quel domaine, parce qu'il pourrait y avoir des cas dont on ne connaît pas, qui ne touchent pas forcément à la médecine, mais c'est qu'on n'a pas de données sur l'étendue du phénomène, alors qu'il y a d'autres pays où ce genre d'études ont déjà été faites, comme l'Australie par exemple, l'Europe aussi, et ce serait important pour le Québec justement pour pouvoir prendre une position, de faire état de ça, de faire qui est-ce qui a discriminé et l'étendue de cette discrimination s'il y en a.
Vous avez d'ailleurs beaucoup de propositions en ce sens-là, Maître Genfez, mais on y reviendra après un pont musical. On va profiter quelques instants de la présence du professeur Hamet. Est-ce que le manque de données sur les discriminations, ce sera quelque chose qu'il faudrait creuser maintenant?
Je m'excuse, je manquais le début de la question.
Aucun problème. Pour faire écho à ce que disait Maître Genfez, est-ce que manque de données sur les discriminations, devrait composer notre orientation?
C'est sûr que si on veut lutter contre quelque chose, on n'a pas de données, vraiment. On est conscient quand même de danger, de discrimination. Et je pense que pour ce qu'on puisse éduquer le public et les médecins, il faut en discuter même de danger potentiel, parce qu'il faut que le démystifier un peu. Où est le danger? Est-ce que c'est vraiment important? Et c'est pour ça que ce serait fort utile d'avoir des données.
Bon, bien, on le dit, des chercheurs, généralement, ça souhaite avoir davantage de données. On vous en souhaite. Merci d'avoir pris un peu de temps avec nous, professeur Hamet. Et on vous laisse probablement vers une autre conférence.
Oui. Bon. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Donc, on se retrouve dans quelques instants, non seulement avec Maître Ida Genfez, mais aussi Shad Salman, qui est conseillère juridique au sein de l'organisme Aligo.
Si au moins c'était pour toi, pour la rivière ou le moulin, je comprendrais mieux pourquoi que demain. Demain, je vais tuer quelqu'un. Quelqu'un que je connais pas, avec une rivière, un moulin, avec une femme comme toi qui chéris aussi bien. Demain, je vais le tuer pour rien. Si la vie veut m'offrir un dernier sentiment, ce serait mon désir de mourir avant lui. Au moins qu'on m'épargne la frayeur de croiser son regard. Enterre mes outils dans la cour. Le chien pour toujours t'offrira ta beauté à mon frère qui la voulait aussi.
Question de la semaine. Craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Feriez-vous un test génétique?
Et continuez de répondre à la question. On le dit en studio, l'important, c'est aussi le débat sur cette question fondamentale, pleine de promesses et aussi pleine de risques. Avec nous, Maître Ida Gengfez, qui est associée académique au Centre de génomique et politique de l'Université McGill. Et s'est ajouté Shahad Salman, qui est conseillère juridique et gestionnaire de la propriété intellectuelle au sein d'Aligo. Bonjour, Madame Salman.
Bonjour.
Bonjour. Juste pour qu'on précise, en fait, votre organisation a comme partenaire presque toutes les universités et cherche un peu à mettre en valeur là, ce qu'on apprend, jusqu'à même peut-être développer des marchés et tout ça. C'est un peu ça l'objectif?
Exactement. C'est du transfert technologique. On commercialise l'innovation venant des universités.
Mm-hmm. Et donc, vous, j'imagine que vous croisez vraiment là, les intérêts privés. Est-ce que vous avez parmi les gens avec qui vous parlez des assureurs, des gens qui travaillent dans le milieu où on calcule ce risque-là?
Pas directement, mais c'est sûr qu'on a la perspective des compagnies privées. En fait, toutes les entreprises privées, généralement, lorsque vient le temps de parler de marché, ben on parle de gestion des risques. Puis, les assureurs sont en plein dans ce marché-là. En fait, c'est quasiment la raison pourquoi ils existent, c'est-à-dire gérer et prédire les risques.
Et j'imagine que vous devez un peu les éduquer comme vous venez de la recherche. Est-ce que vous sentez que vous appartenez plus au monde de la recherche ou du privé?
En fait, on est plus du côté privé, mais moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce sujet-là avec Ida, notamment un article qui a été publié dans la Revue du Barreau canadien. Donc, j'ai cette perspective-là dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire l'approche économique de toutes ces questions-là, des enjeux liés à la commercialisation, en fait, des tests génétiques. Mm-hmm. J'ai aussi la perspective droit de la personne qui vient de mon implication ici, de mon parcours avec, entre autres, l'article qui a été publié. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est les deux chapeaux avec les yeux avec lesquels je regarde ce sujet-là en particulier.
Bien, et donc, vous venez du droit aussi, toutes les deux. On va revenir maintenant à... C'est quoi les pratiques un peu partout dans le monde? Parce que, faut le dire, au Québec, on n'a pas encore de cadre législatif clair. Et là, il vient d'être adopté une loi canadienne qui protège en quelque sorte de la discrimination génétique, surtout via les compagnies d'assurance. Est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est surtout ça le mandat de la loi actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
C'est un des sujets. De discrimination.
Bon. Mais donc, il faut développer les normes en sachant ce qu'il y a au niveau des possibilités, en sachant les droits de la personne. Alors, c'est quoi les pratiques qui nous inspirent? Je vous pose la question à toutes les deux. Allez-y, celle qui veut répondre. Est-ce qu'il y en a dans le monde des pratiques qui devraient nous inspirer? Est-ce qu'on a des exemples sur lesquels on devrait se pencher?
En fait, peut-être Ida qui a fait toute l'historique,
oui.
Je pourrais peut-être apporter ma perspective.
Bon, parfait. donc, rajoutez-en ensuite, mais Maître Ida Gengfez, vous avez effectivement publié une enquête fort intéressante et en prémisse de ce document là, qui aide à préciser une politique, vous avez fait une évaluation de ce qui existe sur la scène internationale. Donc, peut-être que vous pourriez nous tirer quelques traits de cette partie-là de votre recherche, de votre travail.
Effectivement, parce que le professeur Joly, qui est en fait le professeur qui a mené l'étude, qui est au Centre de génomique et politique, le directeur de recherche, ça fait plusieurs années, presque une quinzaine d'années qu'il fait de la recherche sur ce sujet-là. Mm-hmm. Et dans cette étude plus particulière, on a regardé quelles étaient les approches juridiques ou politiques dans les autres pays.
Parce que ça prend des deux. Hein?
Voilà, ouais. Exactement. Et donc, un des modèles qu'on a trouvé, c'était celui du Royaume-Uni, où effectivement, les assureurs n'ont pas accès à l'information génétique. Il y a un accord entre l'industrie des assurances et le gouvernement. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une loi en tant que telle, mais c'est plutôt un accord entre ces deux entités-là. De ne pas utiliser les tests génétiques, avec quelques exceptions, par exemple, pour le test génétique sur la chorée de Huntington.
Ah oui, donc il y a une maladie monogénétique, comme vous le disiez, et ça c'est un peu plus inquiétant, là, peut-être.
Parce que c'est un des tests qui a un niveau de prédiction du développement de la maladie qui est très élevé, qui va peut aller jusqu'à 100%. Okay. Mais même là, avec ce test-là, les assureurs au Royaume-Uni sont tenus de faire un rapport annuel des refus qu'ils font, aussi de présenter aussi justement le nombre d'individus qui sont assurés, ou s'ils ont reçu l'information génétique par mégarde, ils doivent aussi le divulguer. Mm-hmm. Donc il y a un niveau de transparence qui est très important.
Et il y a un niveau de recours aussi, j'imagine. Les gens peuvent s'adresser à une instance quelconque.
Effectivement, il y a une instance indépendante, un ombudsman qui a été créé, où les individus peuvent porter plainte s'il y a lieu. Et cette instance-là est séparée du gouvernement et de l'industrie. Donc c'est vraiment un organisme indépendant.
Est-ce qu'il y aurait d'autres modèles qui seraient intéressants de par le monde, qui pourraient nous inspirer?
Il y a d'autres modèles qui sont les modèles des États européens en général, comme on veut prendre la France, l'Allemagne, qui sont plutôt des modèles qui ont émergé il y a plus de 10-15 ans, avec la Hollande aussi, où, par exemple, en France, l'information génétique ne peut pas être utilisée par les assureurs.
Donc, c'est une impossibilité totale.
Total, hormis par exemple les cas qui incluraient les cas de recours devant la justice où on aurait justement un mandat judiciaire pour le faire.
OK, donc par exemple, si une compagnie d'assurance conteste une réclamation, est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça? Je sais qu'on rentre dans le détail, là, mais...
Moi, je donnerais plutôt comme exemple dans une affaire judiciaire d'ADN pour confirmer, par exemple, l'individu.
Pour confirmer l'individu. Pour être certain que c'est le bon bénéficiaire, par exemple.
Par exemple.
OK. Bon, j'aimerais vous entendre à ce propos, Shahad Salman, qui travaillait au sein d'Aligo. Rappelons que vous regroupez beaucoup d'université, mais vous êtes habitué de travailler avec le privé. Est-ce que c'est des modèles qui vous parlent, vous? Est-ce que vous croyez qu'on pourrait aller dans ces voies?
Ben, en fait, c'est que je crois qu'il y a du pour et du contre dans tous ces modèles-là. En fait, le plus gros enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre jusqu'à quel point est-ce que les compagnies d'assurance ont le droit d'avoir accès à des outils qui leur permettent de faire avancer leurs affaires. Donc, plus il y a des nouvelles façons de prédire la santé potentielle d'un individu à court, moyen, long terme, plus on veut y avoir accès. Donc, jusqu'à quel point est-ce que l'industrie a besoin de ça pour pouvoir aller de l'avant? Et de l'autre côté, c'est sûr que il y a c'est en fait un peu toute la question qui se pose avec toutes les données de plus en plus, ce qu'on appelle le big data, qui peut exister sur l'individu dans son parcours, par rapport à sa santé. Mais
parce que maintenant, on peut avoir toutes les données virtuelles et de l'autre côté, les données génétiques.
Oui, mais c'est ça. Ouais. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'en tant que société, on veut, permettre à l'économie d'avancer de ce côté-là et de l'autre côté, protéger ce que l'individu croit qui fait partie de sa dignité. Veut dire, tu sais, on dit individu, mais il peut y avoir plusieurs perspectives parce qu'il y a des individus qui veulent donner cette information, qui trouvent ça super intéressant de les connaître et de les fournir. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qui est assez
difficile
assez
à trouver. Ouais.
Par contre, il faut se rappeler qu'au Québec, veut pas la charte des droits et libertés. Les deux, en fait, ont permis une exception pour les assureurs de discriminer sur la base de leur de l'information liée à la santé. Évidemment, il y a des limites, la jurisprudence a balisé, mais ultimement, on a permis à l'industrie de faire de bâtir son plan d'affaires sur cette question-là, c'est-à-dire les données liées à la santé des individus.
C'est très important ce que vous dites. Donc, il y a effectivement un modèle à trouver, mais on ne pourrait pas correspondre au modèle de l'Angleterre, puisque, comme vous le dites, les deux chartes ont permis une certaine intrusion dans les droits pour permettre aux gens d'avoir un risque. Écoutez, il reste tellement peu de temps, je suis désolé, mais avec cette loi canadienne, brièvement, de part et d'autre, est-ce que vous êtes à l'aise avec la loi canadienne qui a été adoptée et qui restreint la connaissance des génétiques?
Il ne faut pas oublier que cette loi est très restreinte au contexte fédéral. Donc, le droit des assurances, c'est québécois. Donc, est-ce que c'est un point de départ pour interdire éventuellement, dans certains cas, l'accès à cette information-là?
Donc,
peut-être. Mais
donc, c'est un débat qui doit continuer. Merci
absolument.
Infiniment, Shahad Salman d'Aligo. On était aussi avec Maître Ida Genfez de l'Université McGill. Merci. Et au merci. Téléphone, monsieur professeur Pavel Hamet de l'Université de Montréal, un débat à suivre.
Question de la semaine. Craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Feriez-vous un test génétique?
À chaque émission, on vous présente, autant que possible, un essai ou un récit à caractère historique. Le livre présenté est disponible en version audio grâce à Vues et Voix. Et rappelons que si vous présentez une déficience visuelle ou encore si vous avez des difficultés liées à l'apprentissage, vous pouvez profiter de ces versions adaptées. Je vous invite à entendre le quatrième de couverture du titre « Mes mille et une nuits, la maladie comme drame et comme comédie » de Rouen Ogian, publié chez Albin Michel.
Rouen Ogian, « Mes mille et une nuits ». Faire durer le suspense comme Scheherazade en évitant de me mettre à dos les soignants, c'est le mieux que je puisse espérer si j'ai bien compris la nature de ma maladie. Dans cet essai très personnel, Rouen Ogian suit et questionne avec humour et perspicacité le parcours du malade, les images de la maladie, les métaphores pour la dire, pour l'oublier ou pour en faire autre chose qu'elle n'est. Ne dit-on pas souvent qu'elle serait un défi à relever, un test pour s'éprouver, une expérience qui, une fois dépassée, pourrait même nous enrichir? Farouche adversaire d'un tel dolorisme, Rouen Ogian ne trouve aucune vertu à la souffrance. À ses yeux, ce qui ne tue pas ne rend pas plus fort, et la résilience n'est pas la panacée. Un livre fort, une pensée vive qui nous aide à comprendre le quotidien de la maladie, à prendre conscience qu'elle a bien des causes, mais certainement pas des raisons. Philosophe, directeur de recherche au CNRS, défenseur d'une conception minimaliste de l'éthique, Rouen Ogian est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale », 2011, « Philosopher ou faire l'amour », 2014, « Mon dîner chez les cannibales et autres chroniques sur le monde d'aujourd'hui », 2016.
Mais mille et une nuits, la maladie comme drame et comme comédie de Rouen Ogian est rendu disponible à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec par le truchement de son service québécois du livre adapté.
Chapitre 1. Le cadavre du dolorisme bouge encore. Que signifient ces mots? Malade, maladie. Est-on malade quand on est alcoolique ou sourd-muet? Est-on malade quand on souffre d'une entorse à la cheville ou d'une piqûre d'abeille? Et quand on est obèse ou chauve, hyperactif ou trisomique? Il n'existe aucune définition philosophique de la maladie qui ferait l'unanimité et permettrait de répondre sans ambiguïté à ce genre de questions. Note 1. Ce n'est pas très étonnant. Malade et maladie sont des mots du langage de tous les jours qu'on ne peut pas, semble-t-il, définir en termes de conditions nécessaires et suffisantes, c'est-à-dire en avançant des critères qui permettraient de distinguer clairement les mots qu'il est légitime d'appeler ainsi et ceux auxquels l'étiquette ne convient pas. Bien sûr, cela ne nous empêche pas de faire spontanément une sorte de tri entre des cas jugés typiques, disons la grippe ou la pneumonie, et d'autres perçus comme moins typiques, l'hyperactivité, l'obésité, la calvitie, etc. Cependant, dresser une liste des maladies selon qu'elles nous semblent plus ou moins typiques ne revient pas à proposer une définition en bonne et due forme de la maladie. Mais il se pourrait bien qu'on ne puisse pas faire beaucoup plus ou beaucoup mieux quand on se demande ce que les mots « malade » et « maladie » signifient. Laissant ce débat compliqué de côté, je vais me contenter de dire à quoi je fais personnellement référence lorsque je parle de « malade » ou de « maladie ». En fait, je ne pense pas à des infirmités, des blessures ou des pathologies bénignes comme un rhume des foins ou une migraine passagère. Non. Ce que je mets derrière ces mots « malade » ou « maladie », ce sont des affections qu'on appelle « graves », « chroniques » ou « de longue durée ». Diabète, sida, cancer, etc. Et je ne m'intéresse de près qu'à l'une d'entre elles, le cancer. Évidemment, ce n'est pas parce que je la trouve plus sympathique ou plus intéressante philosophiquement que les autres. C'est simplement parce que c'est la seule, heureusement, dont j'ai une expérience personnelle. Étant donné le statut assez spécial de cette longue maladie, perçue aujourd'hui comme la plus terrifiante de toutes les graves affections, alors qu'elle est loin d'être la cause la plus fréquente de la mortalité due aux maladies, j'ai préféré ne pas universaliser mon propos.
Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimé. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit. Nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. J'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole. Tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu l'aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Enfin, sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Personne.
Question de la semaine. Craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Feriez-vous un test génétique?
Et continuez d'y répondre sur canalm.vusezvoix.com. Comme vous le savez, à ce moment-ci de l'émission, on reçoit des gens qui nous inspirent, qui se battent, qui ont des accomplissements à leur actif. Et d'ailleurs, vous pouvez tous les retrouver en allant toujours sur canalm.vusezvoix.com. Pas très loin d'ailleurs de M. Théberge, si vous cherchez, là, vous pouvez trouver même Caroline Saint-Hilaire. est-ce que c'est une bonne chose que j'en parle?
Ben oui, tout à fait.
Parce qu'en fait, c'est une des politiciennes qui est venue à l'émission déjà. Donc, je vous présente Tommy Théberge, donnons-lui toute la place qu'il mérite. Vous êtes actuellement conseiller municipal à la ville de Longueuil, bien sûr, avec Action Longueuil.
Effectivement.
Notamment.
Notamment, entre autres.
Pourquoi vous êtes allé en politique? C'est la première question qu'on devrait se poser. Avec...
Ben, en fait, c'est drôle parce que vous parliez de Caroline Saint-Hilaire. En 2009, je m'étais porté candidat quand Mme Saint-Hilaire avait annoncé qu'elle se présentait à la mairie à Longueuil. Uh-huh. Moi, j'étais très emballé à l'époque, puis j'avais rencontré Mme Saint-Hilaire. Ensemble, on avait fait campagne. Malheureusement, le destin a fait que je n'ai pas été élu, mais cette fois-ci, en 2017, Mme Sylvie Parent, qui est actuellement notre mairesse à Longueuil, me solliciter, puis c'est avec honneur. Puis la raison, essentiellement, à vous demander pourquoi on se présente en politique, bien, cette semaine, j'écoutais encore M. François Gendron qui a annoncé son départ. On le fait
après
parce
42
qu'on a le
ans.
De, ou après 42 ans de vie politique, on le fait parce qu'on veut servir, on veut aider les gens dans notre quartier, dans notre ville. C'est pour ça qu'on fait de la politique.
Parce que vous aviez d'abord servi à un organisme qu'on connaît bien, là, qui est l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Oui.
Vous aviez été plusieurs années là, quand même.
J'ai travaillé 15 ans, tout près de 15 ans, à l'Institut Nazareth et Louis Braille, comme, tout d'abord comme clinicien. Donc, j'étais intervenant en réadaptation. Et ensuite, je suis devenu cadre. Donc, j'ai été cadre intermédiaire pendant 10 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mmh. On a fait beaucoup d'accomplissements, soit dans le domaine des aides techniques, les aides adaptées pour les personnes handicapées visuelles, mais aussi dans les médias substituts. Donc, tout ce qui était accès à l'information pour les personnes handicapées.
Il faut le dire, puis bon, je déteste en général parler de nos déficiences, de nos maladies, mais vous êtes une personne en situation de handicap, vous êtes une personne aveugle.
Tout à fait.
Et ça, c'est rare quand même en politique. En fait, est-ce que vous savez si d'autres personnes aveugles y ont été comme vous conseillés?
Honnêtement, j'en ai aucune idée.
Mais moi, je vous dirais que j'ai l'info. Que
oui, vous avez l'info.
Il n'y a qu'une seule personne qui avait une basse vision à Montréal, mais qui ne s'était pas déclarée comme telle, alors je ne peux pas la nommer.
OK.
Mais sinon, je n'ai rien retrouvé ou à peu près.
Ben, c'est possible. Moi, c'est sûr que je ne suis pas aveugle total, donc je suis une personne qui a une basse vision. Je suis aveugle légal, bien sûr. Donc, moi, j'ai... Ce qui fait que souvent, bon, ben, je vais avoir de la difficulté à lire à une certaine distance ou parfois même à reconnaître des gens. Donc, mais on s'habitue, puis les gens s'habituent à nous, puis se sensibilisent, tout notre entourage à ce moment-là. Puis moi, je suis très heureux que les citoyens de mon quartier, parce qu'on parle quand même d'un gros quartier, là. Ouais. Ici, c'est 9000 portes, c'est 80 rues.
C'est le district des explorateurs.
District des explorateurs.
Qui est un des plus populeux, effectivement. Et comment on fait campagne, justement, avec toutes ces portes-là, tous ces chemins qu'il faut emprunter, toutes ces personnes à qui il faut dire bonjour?
On travaille dur, mon cher ami.
Oui.
Donc, une campagne dans une ville d'envergure comme Longueuil. Mm-hmm. On parle quand même d'un 6 mois de campagne. C'est très intense. C'est à tous les jours, on est sur le terrain.
Faut-tu partir plus tôt quand on est en situation de handicap pour faire campagne?
Non, je dirais que c'est le même rythme que les autres. En fait, j'avais déjà un gros avantage. Moi, j'étais un marcheur. Hein? Je suis utilisateur de transport en commun. Je marche toujours, donc je suis quand même en forme. Fait que la clé d'une bonne campagne, c'est une bonne paire de souliers, beaucoup d'énergie, puis d'être à l'écoute des gens qu'on rencontre. On a besoin pour ça, bien évidemment, de bénévoles.
Ouais.
Pour vous donner une idée de l'envergure, dans la dernière campagne électorale, j'avais quand même une 50aine de personnes qui m'ont donné un coup de main bénévolement tout au long de la campagne, des gens dans le quartier qui m'appelaient, qui voulaient donner un coup de main, des amis, de la famille. Donc, c'est très exigeant, une campagne électorale.
Ah oui, c'est ça. Mais le pouvoir, est-ce que c'est plus exigeant encore?
Bien, en fait, je vous dirais, c'est toujours de travailler, de rester à l'écoute, rester alerte, puis servir. Souvent, maintenant, bon, depuis le 5 novembre, ça fait déjà 100 jours, on a franchi nos 100 premiers jours. Donc, on reçoit beaucoup d'appels, c'est de familiariser aussi avec tout l'appareil municipal. Parce qu'une ville, c'est beaucoup de directions,
c'est
beaucoup de dossiers, c'est très gros. Là, ben c'est sûr que ces temps-ci, c'est la neige. Hein? On parle de neige, de déneigement, les gens nous appellent.
D'ailleurs, vos concitoyens en situation d'handicap, est-ce qu'ils sont satisfaits du déneigement de votre administration? Parce que c'est la question de l'heure, vous savez. Hein? Ou c'était la question de l'heure il y a quelques semaines.
Je pense que c'est la question de l'heure dans toutes les villes. C'est une question qui revient à chaque année.
Comment ça se passe à Longueuil?
À Longueuil, moi, je dirais que dans l'ensemble, les opérations se passent très bien. Cette année aussi, on a mis un nouvel outil de communication en ligne, donc sur Facebook, sur la ville. Les gens sont informés quand se fait le ramassage, quand se fait les opérations de déglaçage et tout. Puis évidemment aussi, on a un service en ligne qui est le 311. Donc, les personnes sont en situation de handicap, oui, ils peuvent appeler en tout temps le 311 puis faire une requête, une demande de service, mais ils peuvent le faire aussi en ligne. Donc, c'est des mécanismes qu'on a prévus. Je vous dirais que ça se passe quand même très, très bien cette année.
Tommy Théberge, est-ce que, et je pose la question souvent, est-ce que vous êtes content de vous occuper de dossiers qui concernent les personnes en situation de handicap ou vous aimeriez davantage vous occuper de d'autres dossiers?
Bien, actuellement, ce qui est drôle, c'est que je ne m'occupe pas du dossier des personnes en situation de handicap.
Ah, ça tombe bien! Oui.
Non, moi, en fait, au niveau, depuis le 5 novembre, donc je préside l'Assemblée de l'agglomération, donc qui réunit les 5 grandes villes de Longueuil, donc je suis président de l'agglomération. Mais je m'occupe aussi de tout le dossier culturel, loisirs, sport et vie communautaire à Longueuil. Donc, c'est un champ qui est très, très vaste. Ouais. Donc, ça m'amène à...
C'est là que la majorité des installations d'une ville, d'ailleurs.
Ah, mon Dieu, oui. Ouais. Puis, que ce soit autant les bibliothèques que le théâtre de la ville, que tout ce qui est sport et loisirs. Donc, il y a beaucoup d'événements. Il y a de l'effervescence à Longueuil dans ces domaines-là. Donc, évidemment, on est appelé à représenter, évidemment, Mme la mairesse dans ces rencontres-là. Mais surtout... d'être un acteur clé là, dans la prise de décision aussi.
Bien sûr. Puis j'imagine, à contrario, parce que je vous ai dit que vous étiez peut-être plus libre si vous n'aviez pas besoin de parler d'handicap, mais est-ce qu'on vous sollicite souvent pour avoir votre avis sur les installations, leur accessibilité, etc.?
Depuis mon arrivée, franchement, j'ai reçu un bel accueil D'abord, au niveau des employés de la ville de Longueuil, j'ai trouvé une belle sensibilité des gens qui m'aident, qui essaient de m'accommoder. On me demande souvent si j'ai besoin de tel truc. Mmh. Donc, ça, moi, j'ai trouvé une super belle réponse là, mes collègues aussi. Donc, je vous dirais que dans l'ensemble, ça se passe assez bien. Mmh. Au niveau, peut-être du niveau milieu associatif que vous faisiez référence. Donc, à ce moment-là, moi, je vous dirais que je n'ai pas été sollicité. Étrangement, je m'attendais à être sollicité. Ouais. Je me disais, bon, ben ça va venir, mais peut-être qu'il est trop tôt. Mais c'est pas arrivé. Donc, on vous donnera le... voilà, je pense qu'on me donne le temps de m'installer.
AMM.org, c'est à eux à qui il faut parler. Ouais. Mais au-delà de ça, Tommy Théberge, vous êtes un adorateur, pas juste de culture, mais de musique.
Tout à fait.
Vous avez un projet bien spécial sur lequel vous travaillez depuis un moment, hein, déjà. C'est pas de la politique. De quoi s'agit-il?
Ben, en fait, en 2014, je sais pas, dans un élan de folie, j'ai dit, ah, j'ai envie de me partir une entreprise dans le domaine de la musique. Donc, moi, j'ai un côté très fort entrepreneur. Donc, j'ai créé Musique au Max, qui est une école de musique à Longueuil, avec un studio d'enregistrement pour monsieur, madame, tout le monde qui veut venir apprendre la musique. Mais évidemment, cette école-là se veut inclusive aussi. Donc, les personnes handicapées sont bienvenues chez nous. Ouais. Puis, au fil du temps, on a réalisé que j'avais de plus en plus de guitaristes aveugles qui venaient et il n'existait pas de matériel adapté. Donc, j'ai lu, je me suis renseigné, j'ai pas trouvé de code nécessairement pour faire des tablatures de guitare. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus et on a créé, avec l'aide d'un petit comité de personnes handicapées visuelles, Brightam, qui est un magnifique projet, c'est un OSBL. Et maintenant, ben, il y a du matériel disponible pour les personnes handicapées. On a fait le lancement le 7 juin dernier de la première bibliothèque numérique au monde qui s'appelle Brightab.
C'est la première au monde?
À ma connaissance, il n'existe aucune bibliothèque numérique de partition de guitare en braille pour les personnes handicapées visuelles. C'est la seule. Mm. Puis on reçoit quand même beaucoup d'intérêt aussi des gens un peu partout donc dans le monde. Puis là, tranquillement, on va commencer aussi à aller à la rencontre des gens. On a commencé à faire des formations ici. On a voulu d'abord... bien camper ça, la méthode, les services ici. On a offert des ateliers gratuits pour des musiciens aveugles avec INCA qui se poursuivent. D'ailleurs, il y a un atelier en ce moment qui se donne à l'INCA.
Ah oui, en ce moment.
Ouais. Et avec Fondation des aveugles aussi. Donc, on a déjà à notre actif peut-être 15-20 personnes qui ont déjà eu la chance d'avoir des cours, d'utiliser du matériel. Donc là, on avance, puis on veut déployer tout ça à l'ensemble du Canada, puis bien sûr ailleurs dans le monde.
Oui, et Tommy Théberge, entendez ce nom. C'est un homme de vision, un politicien, mais on dirait qu'il veut marquer l'histoire. C'est déjà commencé avec Brightam. Oh, quand même. Non, mais Tommy Théberge, très content d'avoir été avec vous. Rappelons que vous êtes conseiller municipal de la ville de Longueuil avec Action Longueuil. Merci d'être passé.
Merci beaucoup, monsieur.
question de la semaine. Craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Feriez-vous un test génétique?
Continuez, s'il vous plaît, de répondre à la question. C'est une question de civilisation, presque. Parce que, regardez comment les choses évoluent. D'un côté, on a le développement virtuel qui s'est accéléré dans les au moins 20 dernières années. Plus rien n'existe sans le monde virtuel. Et de l'autre côté, il y a la génétique qui est non seulement pleine de promesses, mais avec toutes sortes de trous éthiques, morales, pourrait aussi nous desservir, rendre peut-être nos vies avec plus de discrimination encore. Alors, continuez de répondre à la question. Je rappelle que si vous êtes sur le câble en ce moment, vous pouvez migrer sur Internet et aller à canalem.vusezvoix.com, indiquer si vous êtes heureux de ces développements-là, si vous êtes inquiet de la discrimination. On a souligné, entre autres, à l'émission que certains groupes monogénétiques qui avaient des problèmes ou qui avaient une inscription d'un gène risqué, voire mortel, vivaient de la discrimination. On pourrait penser, entre autres, à ceux qui ont le syndrome d'Huntington, entre autres, qui ont vécu, c'est documenté. Il y a aussi, bon, toutes ces personnes qui ont des maladies rares, là, régionales, un peu comme l'acidose lactique, etc. Il faut s'assurer que ça ne vient pas nous pénaliser, soit dans le fait d'obtenir des contrats d'assurance ou même un emploi. Il y a Nathalie aussi, dans la même veine, qui nous écrit pour nous dire « Bien, moi, je suis en attente de faire le test depuis 3 ans. Elle a un risque de maladie génétique, elle n'a pas encore la certification et Desjardins a refusé de l'assurer. » Donc ça, c'est important, il faut investiguer là-dessus. Il faut éduquer les entreprises, les assureurs. On le disait plus tôt, peut-être que la signal d'alarme arrive un peu trop vite. Donc, Nathalie, continue. Même pas de diagnostic, des assureurs m'ont refusé. Il faut continuer de bien préciser avec des lois. Alors, rappelons qu'il y a une loi fédérale. Bon, Québec n'est pas content. On continue de surveiller le développement de ce sujet, de ce projet, ou plutôt de cette question de société. Merci à toute l'équipe qui a permis cette émission, encore une fois. Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna en communication, Jean-Sébastien à la liberté à la mise en onde. Vous pouvez retrouver tous les intervenants sur la page. N'hésitez pas à aller fréquenter ce qu'ils proposent. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine et espérons qu'il n'y aura pas trop d'accès libre à notre cartographie du gène parce qu'on a le droit quand même à notre confidentialité. Bonne semaine!